Albin de la Simone, bonjour.
Philippe Vandel, bonjour.
Vous êtes chanteur, auteur, compositeur, mais également arrangeur. Vous avez travaillé, vous travaillez encore avec les plus grands, Alain Souchon, Vanessa Paradis, Raphaël, Jean-Louis Aubert, Miossec, Arthur Hache, Salif Keita, et j'en oublie volontairement beaucoup parce que leur tourne, plus d'une centaine de noms. Vous êtes également mis à votre compte, entre guillemets, et vous sortez votre cinquième album personnel qui s'appelle L'un de nous. L'album est recommandé par Télérama, Les Inrocks et Le Monde. Il y a des stickers partout. Votre nom est pas encore très, 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 très connu du grand public. Est-ce que vous êtes en manque d'interview?
Oh non, pas du tout.
Vous savez pourquoi je vous demande ça?
Non.
Parce que dans le CD, qui est un très très bel objet, vous êtes auto-interviewé et vous racontez sur plusieurs pages la genèse de cet album. Pourquoi avoir fait ça?
J'ai fait ça parce que j'aime bien raconter des histoires. J'aime bien raconter l'histoire de ce disque qui est un peu particulière en plus. Le processus d'enregistrement était un peu spécial, donc j'avais envie de le raconter. J'avais aussi un petit peu envie d'orienter les interviews à venir sur la musique.
Ah bah tiens, justement, moi je vais parler musique, donc je suis tombé dans le panneau à fond. Tout part du piano, qui est un piano droit avec un son étrange raconté.
Ma voix étant ce qu'elle est, je me suis rendu compte que l'instrument qui allait le mieux, c'était un instrument qui soit pas trop riche, pas trop dynamique. Le piano, c'est quand même l'orchestre, quoi. C'est l'instrument qui remplace l'orchestre. Donc, il faut l'étouffer un peu. Il faut lui faire un son un peu comme si je vous parle comme ça.
Ouais.
Faire la même chose au piano pour que, au lieu de faire clang, 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 il fasse dou, dou, dou.
Vous trouvez ce piano chez un pote.
Ouais.
Mais il fait tellement de bruit que vous le recouvrez d'une couverture.
Pour qu'il fasse dou, dou, dou.
C'est celui qu'on entend sur le disque.
C'est celui-là, ouais.
Sauf que, sur la photo, c'est un piano clin.
Ah oui, la photo, c'est autre chose. C'est un piano qui est bien pour avoir chez soi, mais qui est nul pour faire des disques.
Vous avez enregistré les 16 chansons de l'album, c'est vous qui le racontez, en 2 jours seulement.
Ouais.
C'était un défi. Ou alors, vous étiez fauché et vous pouviez payer que 2 jours de location du studio.
Ça, c'est une troisième solution. On a commencé à enregistrer et en fait, en 2 jours, on a fini l'enregistrement de toutes les chansons et on a nourri ce disque qui n'est absolument pas un disque de piano-voix. Hein. Il y a plein d'instruments, enfin vous confirmez, il y a, ouais. Il y a du piano, il y a de la voix, mais il y a plein d'autres choses.
Ah, il y a toutes sortes d'instruments, il y avait de la scie musicale.
Oui,
moi, je
oui.
croyais que... on en entendait de la scie musicale que à Pleyel ou dans les cours de musique en 6e.
Ouais.
Bah, il y avait toujours encore... une vieille prof qui passait un 33 tours avec de la scie musicale.
C'est vrai, c'est
qui faisait...
vrai.
Sauf qu'il y en a chez vous. Mais et ça sonne pas du tout comme ça.
J'ai rencontré cette musicienne anglaise qui s'appelle Mara Carlyle. Elle jouait de la scie musicale à un concert symphonique et j'ai cru mourir d'émotion en entendant ça. Il se trouve qu'elle venait à Paris, je lui ai demandé de venir avec sa scie. Alors par contre, aller prendre l'Eurostar avec une scie, c'est particulier quand même.
Alors, il y a toutes sortes de percussions. Je le sais grâce à vous, parce que jamais en entendant le morceau, je sais que c'est ça. Il y a des balles de ping-pong.
Oui, il y a des casseroles et des balles de ping-pong. Chaque musicien cherche son identité. Et ça, c'est vraiment noble. Et le mec sait jouer des congas, il sait jouer de toutes les percussions normales. Mais en fait, il se dit, mais moi, je suis qui là-dedans? Et il se rend compte qu'en tapant sur les casseroles, ça fait un truc magnifique. Qu'en manipulant des balles de ping-pong, ça fait un autre truc magnifique. Et moi, c'est ce genre de musicien-là qui m'intéresse.
Alors, il y a aussi des collaborations qui sont racontées. Par exemple, l'arrivée de cette Sabina, qui elle-même a une histoire incroyable.
Sabina Chouba. Je m'interrogeais sur le titre de mon disque. J'ai eu envie de l'appeler Toujours, parce qu'il parlait du temps. Il parle beaucoup du temps, mon disque. Et donc je suis allé sur internet et j'ai cherché album, titre, toujours. Et je tombe sur le disque d'une femme nue sur un âne avec un ukulélé. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Et j'écoute l'album en entier et là je tombe dans les pommes tellement j'aime la voix de cette femme. Je sais pas où elle vit, pour moi elle est aussi la chanteuse du groupe Brazilian Girls qui a eu un énorme succès aux États-Unis dans les années 2005-2010. J'imaginais donc, vu tout ça, qu'elle était absolument inaccessible et qu'elle habitait sur Mars. Et je découvre qu'elle habite dans un château dans la forêt de Fontainebleau.
Énorme tournée qui arrive. Vous serez au Café de la Danse en décembre les 11, 12, 13, 14 et 15. Sinon, la tournée passe par, je prends mon souffle, Bruxelles, Tournai, Amiens, Saint-Etienne, Sarrebruck en Allemagne, Montréal au Canada, Montreux en Suisse, les Francopholies de La Rochelle, Lyon en novembre et j'en oublie. Vous allez prendre quel piano? Celui de la photo, celui de chez vous ou encore un troisième?
Ouais, ni l'un ni l'autre. Je vais avec un piano transportable.
Et vous allez mettre une couverture dessus pour refaire le son du disque?
Non, je bricole autrement. La scène, c'est pas le disque. La musique se reçoit pas de la même manière. Elle s'écoute qu'une fois sur scène, elle s'écoute 1000 fois en disque. Donc je vois pas du tout les choses de la même manière.
Albin de la Simone avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Albin de la Simone avec nous, chanteur, auteur, compositeur, qui vient de sortir son 5e album, ça s'appelle L'un de nous, et il sera en tournée dans toute la France et même internationale, pour Paris, au Café de la Danse en décembre, 5 dates. Je vais parler de votre carrière, votre père était musicien de jazz amateur, mais au départ vous vouliez pas faire de jazz.
Disons que mon père était musicien de jazz amateur, ma mère a toujours été plus touchée par les arts plastiques. Au début, moi je suis parti dans la direction des arts plastiques, puis je suis retourné à la musique, mais j'ai fait du jazz moderne pour emmerder mon père qui faisait du jazz traditionnel, jusqu'à découvrir assez tard que les mots me manquaient et que je voulais faire des chansons.
Ça allait être ma question, comment vous êtes passé du jazz à la chanson française, vous venez de me répondre. Mais en revanche, vous avez d'abord été arrangeur,
oui.
Et vous êtes, paraît-il, devenu chanteur grâce ou à cause de Vanessa Paradis.
Je suis devenu chanteur bien avant de rencontrer Vanessa. C'est le fait de rencontrer Philippe Catherine, Mathieu Bogart, ces gens-là qui sont de ma génération,
ouais.
Dont le travail tourne autour des mots et de l'individualité. C'est ça qui m'a fait devenir chanteur. J'avais besoin de ça.
Vous avez pris des cours de chant ?
Ouais, un peu, mais pas beaucoup.
Et des cours de danse ?
Oui, des cours de danse moderne jazz avec Arthur Ashe.
Pour
on
faire
s'est
quoi
bien marré. Pour se détendre, je fais pas de la musique à danser du tout, J'avais besoin quand même de savoir à quoi mon corps servait là-dedans. Mais c'était un genre de défouloir aussi, ça aurait pu être du karaté. Hein,
Et votre voix, vous la trouvez comment ?
Je peux pas dire que je l'aime bien, je l'écoute pas par plaisir, mais j'aime tellement chanter que maintenant j'ai plus aucun problème avec.
Dans l'album, vous dites avoir compris qu'il fallait construire la musique autour de la voix.
Pour le coup, vous me posiez tout à l'heure la question de Vanessa Paradis, de quelle manière elle m'a... En fait, Vanessa m'a fait comprendre ça, parce que Vanessa a une voix particulière, et j'aime particulièrement sa voix quand elle chante doucement. Pour qu'elle chante doucement, il faut que la musique joue doucement. Si on met des trucs hyper agressifs autour, c'est un décalage qui marche pas, je trouve. Donc j'ai réalisé grâce à Vanessa... Et à Miossec aussi, pour lesquels j'ai travaillé, qu'on commence par mettre cette voix si particulière au milieu et après on l'habille avec ce qui lui va et on enlève ce qui lui va pas.
Sur le 10 Bungalow, il paraît que les choristes qu'on entend, Les femmes, en fait c'est vous.
Bah,
avec, en trafiquant le son, en bidouillant le son.
Oui.
Vous aviez pas d'argent pour payer les choristes.
J'étais
ou vous vouliez vous amuser avec le son.
J'étais à Bali. J'étais tout seul à Bali et je voulais faire des chœurs, donc je les faisais moi-même. Je faisais Rabadibado et je les bricolais pour qu'après ça parte à l'octave et ça fasse une voix de fille. Et en rentrant, j'avais envie de les garder.
Il y a des légendes qui courent sur vous. Je pense que c'est vrai, mais quand même, vous avez vraiment été musicien en concert, sideman, comme on dit, avec Iggy Pop.
Oui, pas longtemps, mais ça m'est arrivé. Ouais.
Pas longtemps, c'est quoi ? C'est une heure ?
Non, plusieurs jours. Une émission, la musicale de Canal,
ouais.
Spéciale lui, où il faisait des duos avec plein de monde, dont...
Ah oui, mais ça c'est différent.
Pendant deux jours donc.
Ouais.
Et puis après on a fait deux concerts dans la foulée et basta. Mais ça suffit
tout.
À foutre une claque. Oui, j'ai pas fait une tournée internationale avec lui. Hein.
Vous étiez avec quel instrument ?
Orgamon,
ouais.
Donc B3 et synthétiseur et piano un peu aussi.
Mais comment vous avez fait ? Vous avez appris tout le répertoire d'Iggy Pop ou vous aviez les partitions avec vous ?
Non, j'avais une liste de chansons qu'on allait jouer et je les ai travaillées à ma manière. Chacun a sa façon d'apprendre des chansons. Ce qui est génial, c'est qu'il est effectivement extrêmement puissant, mais en même temps d'une douceur et d'un professionnalisme et d'un respect de l'autre. J'ai adoré le mec.
Il s'est foutu à poil ?
Au deuxième morceau. torse nu.
Et alors, est-ce que vous confirmez le fait que vous ayez fait les concerts des To Be Free à Bercy ?
Non.
C'est dans Libération qui s'abrite derrière Wikipédia.
Il faut lire mieux. J'ai joué sur les bandes playback qui servaient au concert des To Be Free à Bercy, en fait.
Vous étiez en playback ?
Bah, moi, j'ai joué, mais dans un studio. Mais eux, ils ne pouvaient pas revenir à Bercy avec la même chose que leur disque. Donc, ils ont fait refaire leur musique par des musiciens. Ils l'ont passé à Bercy. Ce qui est dingue, c'est que les applaudissements viennent de Marseille parce qu'ils ont merdé à Bercy. Donc, finalement, l'album Bercy 98, il n'y a rien à Bercy.
Autre bizarrerie dans votre parcours, vous donnez de très nombreux concerts non sonorisés.
Oui.
Il faut que ce soit une petite salle.
Jusqu'à 500.
Et quels instruments autour de vous ?
Violoncelle, violon, percussion et guitare. Moi, je joue d'un clavier qui est un tout petit peu sonorisé. Et surtout, on sonorise ma voix. Mais le reste est complètement nu.
Ah, mais vous sonorisez votre voix.
Ah, ma voix, oui, pour qu'on comprenne les paroles, vraiment. Oui,
ah, bah, c'était ça ma question.
Ah, ouais.
Okay. Donc, okay.
C'est la seule chose qu'on sonorise. On met ça sur une enceinte derrière moi. Donc chaque son vient quand même de chaque instrumentiste.
Albin de la Simone avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Albin de la Simone avec nous, musicien, auteur, compositeur. Est-il vrai qu'Albin de la Simone est un pseudonyme ?
Mais non.
Ah, il paraît qu'en vrai vous appelez Albin Leleu de la Simone.
Est-ce que ça fait de Albin de la Simone un pseudonyme ?
Non, on m'a dit c'est pas son vrai nom.
Bah, c'est mon vrai nom, mais c'est pas mon vrai nom complet.
C'était dur à porter un nom pareil ?
Ouais. Enfin, attention, hein, y a pire. Mais oui, à la campagne où j'habitais, enfin là où j'habitais, c'était pénible parce qu'on m'imaginait un peu avec une canne, un chapeau haute forme, et je sens qu'on me prend toujours pour quelqu'un comme ça.
On vous imaginait appartenir à une grande famille d'aristo.
Oui, il y a deux cas de figure en fait, soit une grande famille d'aristo, soit un mec qui a choisi ce nom-là pour devenir chanteur. Ce qui est peut-être pire parce que je suis pas sûr d'aimer le chanteur qui aurait décidé de s'appeler Albin de la Simone.
Dans la chanson Mes épaules, sur l'album Un homme, vous chantez ceci, le poids de ce nom ridicule, de ce fantôme à particules qui avance quand je recule. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oh, c'est mon avant-dernier album, je ne sais plus, je ne me souviens pas. Non, le poids de ce nom ridicule, bah, y a une allitération en hul, il y a un jeu avec une chansonnette de notre enfance aussi.
J'ai bien compris.
Et il y a le fait que bah, on n'est jamais synchronisé avec ce genre d'histoire, quoi.
Alors j'ai découvert quelque chose de dingue, votre histoire personnelle assez incroyable, en tout cas les débuts. Est-il vrai qu'à l'école, vous étiez le souffre-douleur de toutes les classes?
Ouais, en tout cas à partir du collège, oui.
Mais pour quelle raison?
J'en sais rien.
Mais comment ça? Alors vous avez dit, j'étais une tête à claque, je me faisais taper tout le temps.
Je devais provoquer l'agacement.
J'ai rencontré quelqu'un ici, Max Guazzini, ouais, qui se faisait taper dessus, ouais, parce qu'il était trop grand.
Ah oui, ah ouais.
Mais vous aviez quoi? C'était quoi votre défaut?
Alors moi, j'ai toujours été complexé par mon physique et donc j'en ai sûrement beaucoup rajouté par mon mental. Je devais être insupportable.
C'est allé loin. Libé raconte, le jeune homme se fait sans cesse courser, menacer, harceler jusqu'au cassage de gueule intégral.
Je me suis fait casser 4 doigts à coups de Doc Martens quand j'étais dans un lycée en Belgique.
Et les doigts, ils sont comment maintenant?
Parce ils sont réparés. Mais...
Non, parce que vous êtes au piano, tout d'un coup, je suis inquiet.
Ouais, mais justement, je revenais de la salle de piano et je me suis fait casser 4 doigts à dessein.
Est-il vrai que vous avez une période rebelle avec une Iroquoise sur la tête? Vous avez été punk?
Oui, l'année où je me suis fait casser les doigts d'ailleurs. Par des gens qui n'aimaient pas trop ça d'ailleurs.
Ah bah voilà la réponse.
Là j'ai la réponse, ouais.
Mais en général, les punks, ils ont une bande de punks avec eux. Vous étiez tout
seul?
Ouais,
un peu, ouais.
Mais vous aviez une bande ou vous étiez tout seul?
Non, j'étais tout seul. Et je jouais du piano.
Est-il vrai que vous avez failli mourir il y a 5 ans?
Oui. J'ai cru mourir. J'ai cru, mais je suis allé à l'hôpital et tout ça.
J'ai découvert le nom de la maladie dans les Inrocks, pour tout vous dire. Péricardite, myocardite.
Oui, alors le péricarde et le myocarde sont respectivement l'enveloppe et le muscle du cœur. Et it, c'est une inflammation.
Est-il vrai que vous habitez dans une ancienne boutique?
Oui.
Et que vous entendez les gens parler dans la rue?
Ah, ça m'est arrivé une fois, oui. Je venais de sortir la chanson Mes épaules et je venais d'emménager dans cet appartement. Et j'ai entendu quelqu'un passer dans la rue et j'entends sa femme lui dire « mes épaules » en se moquant de lui, et lui qui fait « oh, ça va ». Et puis ils ont disparu et j'ai jamais su ce que c'était.
Est-il vrai que vous aimez qu'il y ait des sens interdits partout dans Paris?
J'adore ça.
Non?
Je suis un fou de sens interdits, je collectionne les sens interdits, c'est ma passion. Je suis abonné à Sens Interdits Magazine même.
Télérama, 11 janvier 2014, question. Dans quel quartier vivez-vous? Albin de la Simone. Jourdain, c'est un quartier fabuleux, préservé des cons grâce aux sens interdits.
J'ai tout dit. Bah, y a peu de voitures, j'habite au rez-de-chaussée, dans ma rue, si elle n'était pas en sens interdit, ce serait un bordel pas possible, et je suis ravi que les gens ne viennent pas dans mon quartier.
Donc vous êtes passé de l'ironie au premier degré, vous remarquez?
C'est vrai, grâce à vous, merci.
Est-il vrai, là il paraît que c'est vrai, que vous êtes le roi des histoires drôles?
C'est marrant, là vous le tenez d'où ça? Aslibé peut-être ou...
Non, plein de gens l'ont dit.
Ah oui.
Là c'est dedans Télérama, mais c'est plein de potes à vous qui le racontent, qui disent c'est le roi de l'histoire drôle.
J'adore ça, j'adore raconter des histoires. J'adore ça.
Ah bah alors, ne vous privez pas. Ouais. Vous les racontez sur scène ou pas?
Non, ça m'est arrivé à des moments où vraiment il y a une panne électrique ou un truc comme ça. Mais je suis même en train d'écrire peut-être un recueil d'histoires, mais parce que je les transforme en nouvelles en fait. Je vais vous dire, elle est très courte, la dernière qu'on m'a apprise. C'est un mec qui est super content, il retrouve son meilleur pote, il lui dit « je viens de monter un quatuor à cordes, je suis hyper content ». Son pote lui dit « ah bon ?» Il dit « ouais, on est trois ». Il dit « trois ? Ouais, avec mon frère ». ».« T'as un frère ?» Non. Voilà.
Merci beaucoup, Albin de la Simone, d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.